Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Julien Pierce.
Merci d'être avec nous. Après une croissance folle ces 20 dernières années, il faut le dire, le bio connaît ses premières vraies difficultés. Depuis quelques mois, certaines filières surproduisent par rapport à la demande. Résultat, 20% du lait bio collecté en France est vendu en grande surface, comme du lait classique, donc moins cher. Pareil pour les pommes, les carottes ou encore les œufs. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
C'est une crise de croissance. Le bio n'a cessé de s'étendre depuis 20 ans. Peut-être qu'il a trouvé son marché idéal aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine part de la population qui ne peut plus grossir, parce que pour s'étendre, il faudrait que ce marché aille vers des gens qui ont moins de moyens. Après, ça peut repartir, hein. Ça n'est que momentané, je pense. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a une surproduction. La demande faiblit, alors qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont en conversion et dont les conversions, au bout de 2 à 3 ans, ont abouti à leur installation véritable. Après, il y a aussi le jeu de la grande distribution, hein, qui est en train de renégocier les prix, parce que la grande distribution a toujours accordé aux agriculteurs bio leur vrai tarif, celui de leur coût de production. Et la grande distribution, qui est en difficulté, aimerait bien que ces tarifs soient négociés plus bas. Et du coup, il y a une forme de rétention à l'achat, de chantage ou déréférencement de bio vers le conventionnel, notamment par Lactalis, c'est bien connu. Donc voilà où on en est. C'est un point d'étape important qui n'est pas surprenant, hein. C'était assez prévisible. On avait longtemps cru que le bio allait s'étendre de façon exponentielle année après année. Non, c'est faux. Au bout d'un moment, le marché sature et on en est là.
Et puis, il y a aussi une question de pouvoir d'achat. Elle est centrale en ce moment pour de nombreux Français. On parle de l'inflation, de l'explosion des prix, de l'énergie et du carburant. Du coup, les consommateurs qui sont pourtant plus enclins à être soucieux de leur alimentation depuis la crise sanitaire sont peut-être davantage réticents désormais à payer le surcoût du bio ?
Ça, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire. On a fait des efforts parce qu'on était chez nous. Et puis, il a bien fallu qu'on mange chez nous, faire à manger des aliments qui nous rassurent. Beaucoup de gâteaux, on n'a jamais mangé autant de gâteaux. Et en même temps, le budget alimentation, c'est le levier d'ajustement du budget familial. On préfère ne pas se passer de tout. Par contre, on va rogner sur la bouffe. C'est pas illogique. Et puis en plus, l'écart entre un produit conventionnel et bio est très élevé, 30, 50, voire 100%. À la campagne, c'est moins vrai, surtout que la plupart des agriculteurs bio vendent en direct et là, l'écart est quasi inexistant.
Alors, vous avez pointé du doigt la grande distribution. Il est vrai que on trouve très régulièrement sur les étals des fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou du Maroc. Ils sont estampillés bio, mais on se doute bien que leur bilan carbone n'a rien d'écolo. Est-ce que ça nuit à l'image du bio ?
Ça commence à nuire parce que les gens sont en train de se dire « oui, mais le bio véhicule plein de vertus, en tout cas, c'est ce que ses porte-paroles ne cessent de nous dire. Le bio fait du bien à la planète et en même temps, on voit qu'il vient de loin. » Alors derrière tout ça, il y a une réalité et puis un fantasme. Le fantasme, c'est que le budget carbone pour un produit, un fruit et légumes, c'est à peine 10% du coût carbone de la production. La réalité, c'est que sans le savoir, on pointe le doigt sur l'essentiel, à savoir qu'un produit qui vient de très loin, il véhicule deux grands malheurs. Le premier, c'est que ce fruit n'a aucune, enfin très peu de vertus nutritives. Il a été cueilli bien avant la maturité pour pouvoir être transporté et dans le transport, la température basse des frigos font que ces molécules sont détruites. Puis deuxièmement, des produits qui viennent de pays qui n'ont pas nos réglementations environnementales et sociales, même si ces produits respectent la charte bio, ils ont été produits, on le voit bien en Espagne, par des quasi-esclaves venus du Maroc et à peine déclarés, qui produisent dans des serres, dont l'alimentation en énergie et en eau vide un fleuve, le Guadalquivir, et puis deux, coûte une énergie folle. Donc ça n'a pas beaucoup de sens.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de lisibilité pour le consommateur? Parce qu'il y a des produits estampillés AB, agriculture biologique, ça on connaît. Ouais. Mais à côté de ça, il y a le label HVE, haute valeur environnementale, le ZRP pour zéro résidu de pesticides. On n'y comprend plus rien.
Non, on n'y comprend plus rien et c'est le malheur du bio qui a cru qu'en se positionnant comme seule alternative au conventionnel, il allait être garanti de sa réussite. C'est faux. Comme le bio se résume dans le cahier des charges et uniquement dans la lettre du cahier des charges à l'absence de pesticides et d'engrais, vous avez la grande distribution qui, avec différentes enseignes, a créé un label zéro pesticides, c'est-à-dire qu'on ne retrouve que des traces de pesticides. Et puisque le bio, dans sa communication, a surtout joué là-dessus, les consommateurs se disent, après tout, si c'est juste l'absence de pesticides, autant qu'on achète ces produits-là, qui sont moins chers que le bio. Pour le HVE, notamment le HVE3, c'est différent. Les agriculteurs en haute valeur environnementale numéro 3 peuvent utiliser des pesticides, mais surtout, ils sont assujettis à des indicateurs de résultats en matière de biodiversité. Et ça, c'est le gros problème du bio, c'est que le bio, dans son esprit, respecte la vie, respecte les sols, les arbres, les oiseaux, tout ce que vous voulez. Dans la lettre, rien ne l'y oblige. Et d'autres formes d'agriculture, notamment la conservation des sols et l'agriculture qui est estampillée HVE3, au moins se soumet à des indicateurs de résultats en la matière auxquels ne sont pas soumis les agriculteurs bio. Et c'est là où on voit qu'aussi le bio est à la croisée des chemins. Il va lui falloir évoluer sur ces paramètres-là.
Merci beaucoup Frédéric Danhé de nous avoir éclairé sur ce tassement du marché du bio. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de nombreux livres dont Le bio au risque de se perdre, et c'est chez Buchet Chastel. À très bientôt sur Europe 1.
À bientôt, au revoir.